I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, je sais pas si je suis toujours excellent, mais en tout cas, merci de m'accueillir encore une fois. Poulain Raffut, hein, vous savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro pour les Parisiens ou les Lyonnais. On en parlera des Lyonnais. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité prestigieux. Simplement, il est juste finaliste d'une Coupe du Monde, me semble-t-il.
Oui, son coach Pierre Mignoni, Didier Luc, c'est un garçon extrêmement attachant et hyper important dans un groupe. Un fédérateur qui crée le lien dans une équipe et un vestiaire. Un vrai leader sur et en dehors du terrain. Un mec de caractère, bref, un joueur atypique. En effet, il a le profil d'un talon avec son 1m74 et ses 92 kilos, mais c'est à la mêlée et à l'ouverture qu'il officie en s'adaptant au choix du coach pour le bien de l'équipe. C'est toujours, selon Pierre Mignoni, sa philosophie, le collectif en premier. Originaire de Sainte-Croix-Volvert, il a joué à Saint-Girons jusqu'à ses 16 ans avant de faire ses classes au Stade Toulousain, club avec lequel il gagne 4 titres de champion, champion de France cadet en 2008, champion d'Europe en 2010 et champion de France avec la grande équipe en 2011 et en 2012. Meilleure révélation la même année, il s'expatrie 6 ans plus tard au Loup où il vient de re-signer pour 3 saisons supplémentaires. Passé par toutes les équipes de France, Jean-Marc Doussin connaît sa première sélection lors de la finale de la Coupe du Monde contre les Blacks en 2011 à tout juste 20 ans. Il jouera 17 fois sous le maillot tricolore avec 3 sélectionneurs différents. Guy Novès dit de lui que c'est une forme d'assurance tout risque, un véritable roc en défense, irréprochable sur son investissement et essentiel dans la vie d'un groupe. Allez, pour l'anecdote, et je tiens ça de son attaché de presse, Caro Thiébaud, beaucoup le confondent avec Thibaut Regard sur le terrain et ça le fait disjoncter. C'est cadeau ça. Plus sérieusement, c'est un joueur atypique, attachant, engagé, généreux. Vous l'aurez bien compris, c'est un mec incroyablement facile à manager, très humain, avec un cœur énorme et un énorme caractère aussi. Personnellement, il y a 2 mecs, moi, qui m'impressionnent depuis quelques années dans ce top 14. Guillaume Guirado, qu'on a reçu il y a peu, et Jean-Marc Doussin. J'ai rarement vu un type s'échapper sur un terrain, mais ces deux-là ont quelque chose de particulier. Une sorte d'engagement total, tête la première, comme si c'était une question de survie à chaque impact et que chaque centimètre était vital. J'ai pu analyser il y a peu dans un documentaire appelé « Un philosophe dans l'arène ». J'adore ça, tu vois, de parler de philosophie. Les gens s'y attendent pas, hein, Arnaud. On le sait, hein.
Non.
Bref, ouais, je sais, ouais. J'ai pu donc analyser il y a peu dans un documentaire appelé « Un philosophe dans l'arène » la manière dont le taureau s'investit corps et âme dans la bataille. Eh bien, Jean-Marc Doussin et Guillaume Guirado ont ce côté animal sauvage, massif, entier, qui les différencie des autres, avec cette volonté fière et presque brutale d'une bête dont chaque action devient vitale. Ces deux joueurs sont spectaculaires dans l'affrontement direct avec leur gabarit atypique et ça force le respect. Bref, je suis heureux de recevoir dans Poulain Raffut Jean-Marc Doussin. Salut Jean-Marc.
Salut à tous. Merci de me recevoir.
Ouais, c'est cool, bienvenue. Ravi de te recevoir.
Je m'en vais, là.
Écoute, j'ai fait tapis, j'ai fait all-in, je me suis dit, j'ai une plume, j'ai fait avec un 2 à 7, je me dis qu'il y a peut-être une suite à faire, j'avais envie de... Voilà. J'avais envie de...
Je suis sûr, quand même.
Et c'est vrai que j'ai regardé ce documentaire sur la tauromachie, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, et ce n'est pas l'endroit. Mais l'investissement du taureau, je trouve ça absolument... Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, philosophiquement, très, très beau. Bref, Jean-Marc, je dois t'avouer que je suis très, très fier de te recevoir dans Poulain Raffut, notamment parce que, comme je l'ai dit dans le portrait, tu es quand même, je pense, le seul mec à être rentré en finale de Coupe du Monde. On rappelle la finale de Coupe du Monde, perdue malheureusement contre les Blacks. On ne rentrera pas dans les détails de savoir si c'était un vol ou pas. Mais tu rentres dans cette finale en 2011. Et quel souvenir, je voulais savoir, que tu gardais de cet épisode à tout juste 20 ans ?
Ben c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai fait 2-3 dernières interviews, on m'en a reparlé parce que ben, quand je suis entré de la Coupe du Monde en 2011, tout le monde parlait que de ça. Après, il y a une petite phase où on n'a plus parlé et là, on en reparle. C'est peut-être que ça sent le sapin pour ma carrière parce que c'est plus vers la fin. Mais non, ben, c'est quelque chose d'incroyable de me retrouver là. C'est vrai que j'étais appelé pendant cette Coupe du Monde, je n'avais pas fait la préparation Et j'ai remplacé David Skrela, avec qui je venais d'être champion de France avec Toulouse. Donc, ça a été quand même vraiment particulier. J'avais commencé la saison avec Toulouse, le début de saison, et on m'appelle en milieu de Coupe du Monde, et j'ai rejoint l'équipe. Et je ne pensais pas du tout faire ma première sélection à ce moment-là. Et je suis sur la feuille contre le Pays de Galles en demi-finale, mais je ne rentre pas. Et je rentre à la fin, à la place de Dimitri Yachvili. Et c'est vrai que ça, tout va très vite, et je n'ai même pas le temps d'en profiter, parce que je rentre 5 minutes et je touche un ballon, le perd après derrière, et la Coupe du Monde est perdue, quoi.
Tu parlais justement, alors c'était pas une question qu'on avait prévue avec Raph, mais ce sentiment de rentrer une première sélection, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui attendent 10 ans, 15 ans pour jouer une finale de Coupe du Monde à l'Eden Park, à Auckland. C'est comme pour un footeux qui va jouer une finale au Maracana, j'imagine, au Brésil. Il y a quelque chose qui doit être hyper intense en termes d'émotion.
C'est à la fois hyper intense et j'ai même pas le temps de calculer, de réfléchir. Je suis rentré dans cette Coupe du Monde en préparation. Déjà, c'était incroyable de m'entraîner avec tous ces joueurs, les meilleurs Français qui avaient une expérience. Je ne sais pas, la moyenne d'âge devait être à 30, 31 ans, je pense, de cette Coupe du Monde, des joueurs français. Et moi, je me retrouvais là, entouré de tous les Toulousains. Donc, ça s'est super bien passé. J'étais accueilli vraiment. J'étais au top et voilà. Et puis, je me sentais à l'aise. Et je pense qu'à cette époque-là, Marc Lévremont l'a senti aussi. Et il m'a fait confiance, donc au détriment de certains. Et je pense que ça a été difficile pour eux parce qu'eux avaient fait la préparation.
Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, Jean-Marc, quoi, c'est voilà, tu es à 20 ans, tu joues contre les Blacks en finale. Et ce que tu disais, c'est que tu n'as pas le temps, en fait, d'impacter, de savoir véritablement ce que tu vis. En fait, tout va très, très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, alors au Loup, tu viens de re-signer 3 ans, ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans que tu es en top 14, 4 titres, dont 3 majeurs. Est-ce qu'on arrive à savourer maintenant, à l'âge que tu as, justement, un peu plus posé et peut-être un petit peu plus mature?
Ben oui, forcément, je me raconte encore plus de la chance que j'ai eue. Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance d'avoir 17 sélections et... Aujourd'hui, j'ai que 30 ans, entre guillemets, mais voilà, l'équipe de France, c'est terminé. Et je suis concentré maintenant 100% sur mon club. Et je me rends compte de la chance que j'ai eue à ce moment-là. Et peut-être de ne pas en profiter assez. Mais en soi, je pense que j'en ai profité sur le moment. Je me souviens de plein de choses. Mais à la fois, cette période de la Coupe du Monde, ce dernier match, c'est tellement allé vite pour moi que ouais, c'est difficile d'en retirer encore quelque chose, quoi.
Alors justement, tu le soulignes, et Raph l'a dit dans ton portrait, 17 sélections, une finale de Coupe du Monde. Et en même temps, est-ce que tu n'as pas le regret de ne pas avoir pu vivre une Coupe du Monde dans son intégralité avec une préparation? On sait que c'est des histoires d'hommes, c'est des histoires de groupe, et on sait que tu es très attaché à ça. Jean-Marc, tu es quelqu'un de, on ne va pas se mentir, de relativement discret, mais qui dans un groupe a un fort impact. Tu es un peu un mec à l'ancienne, comme on dit, et ça, c'est quelque chose de très positif. Hein. Voilà, tu représentes certaines valeurs, et de ne pas avoir pu participer comme ça à l'intégralité d'une Coupe du Monde, d'une aventure, allez, je vais dire n'importe quoi, mais d'aller faire les sorties en VTT, en montagne, voilà, c'est tout ce qui est cohésion, on sait que c'est quelque chose auquel tu accordes l'importance.
Faire les sorties en montagne.
Bon, pour quelqu'un qui vient de l'Ariège.
Non, je préfère aller marcher. Aller ramasser des champignons. Non, c'est pas un regret, c'est juste j'aurais aimé, oui, vivre l'expérience pleinement, la longueur, parce que je pense que t'en chies pendant 3 mois pour aller en Coupe du Monde et tu sais même pas si tu vas y être au final parce que tu fais la préparation et ça forge un caractère et malgré tout de l'expérience pour l'après, mais c'est juste ça. Ce n'est pas un regret, mais j'aurais aimé vraiment, parce que pour avoir connu les mecs avant et après la Coupe du Monde, c'est vrai que tu les revois en 3 mois, les corps changent parce que tu manges encore mieux, on s'occupe de toi à 200%, tu es encadré. Et c'est vrai que les joueurs de Toulouse, quand à l'époque j'étais à Toulouse, ils revenaient de 3-4 jours en repos et on les voyait, ils étaient affûtés comme des lames, quoi. Et ça, c'est vrai que tu te concentres et consacres pleinement à ton corps et au rugby, ce que tu ne fais pas totalement en club parce que tu as ta vie de tous les jours, tu es à côté, certains ont des business et voilà, tu as un objectif et ça, c'est vrai que j'aurais aimé le vivre complètement.
Oui, et puis c'est aussi... une vie sociale aussi que tu te formes qui est hyper intense. En fait, tout est accéléré. Tu as été Barbarians, donc tu sais que voilà, en 3, 4 jours, 5 jours, Tu vis un truc extraordinaire que tu vis en fait condensé en 365 jours, tu le vis en 4 jours. Là, tu le vis en 3 mois, en plus avec un objectif quand même, qui est de gagner la Coupe du Monde. C'était l'objectif affiché avec cette fameuse génération justement des Titi Dussautoir, des Imanol, des Lionel Nallet et tous ces mecs. Donc c'était vraiment une grosse, grosse génération. Tu as connu 3 sélectionneurs, toi, si je me trompe. Tu as connu la période Philippe Saint-André, ensuite... Avant, Lièvremont, Saint-André et puis Guinerès. Je pense qu'il y en a un à qui tu peux être attaché plus particulièrement. Est-ce que ce serait Guinerès, sachant que tu as quand même gagné des titres avec lui, avec Toulouse, et que tu as pu retrouver aussi en équipe de France? Moi, j'aimerais comprendre comment fonctionne Guinerès. Pour moi, c'est un mythe. Le mec a tout raflé. En plus, derrière, on en a beaucoup parlé dans Poulain Affût, il s'est fait dégager. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais ce n'est pas le sujet. Mais voilà, Guinerès, je pense que c'est quand même le mec qui a pu marquer déjà le début de ta carrière aussi professionnelle.
Ouais, forcément une pensée pour lui, parce que c'est vrai que c'est lui qui m'a fait confiance. Je jouais en jeune au stade à l'ouverture et pas du tout à la mêlée. Et pénurie de neuf à cette époque-là en équipe première. Et il voit en moi ce potentiel-là. Et du coup, il me lance sur un match de qualification au WASP à la mêlée. Donc, une histoire incroyable. Et voilà, et de là, ça a bien démarré. Et c'est vrai qu'après, de le retrouver en équipe de France, c'était... à la fois drôle et même bizarre, parce qu'on se posait tous la question des Toulousains, savoir comment il allait se comporter avec nous et surtout comment il allait être avec les autres, parce que nous, on le connaissait au final au quotidien. Et là, c'était dans une autre structure, entre guillemets, et voir comment les autres joueurs allaient, entre guillemets, l'accepter, parce que Guinovès, c'est une forte personnalité, il a sa façon de manager que certains ne connaissaient pas, et nous, on avait cette chance-là, les Toulousains, de le connaître, et je pense que c'était aussi rassurant pour lui.
En 2016, Guy avait déclaré, et Raph l'a rappelé dans ton portrait, 12 ans, c'est l'assurance tout risque. Qu'est-ce que tu avais compris pour, comment tu l'avais pris, cette déclaration?
Bon, je pense que c'était déjà le cas quand il pensait ça de moi à Toulouse, même si c'est venu avec l'enchaînement des matchs, mais c'est toujours positif. C'est toujours en bien qu'on voit ce genre de déclaration, mais voilà, Guy, je pense que c'était peut-être par rapport à une situation ou un match, ou je ne sais plus par rapport à quoi il avait dit ça, mais en tout cas, c'était toujours positif devenant de la bouche de Guy.
Je pense que c'est par rapport à ta défense, justement, et j'en parlais, hein, je rigole pas quand je dis justement qu'il y a 2 mecs qui marquent, c'est Guirardo et toi, quoi, c'est vous y allez bille en tête, et puis voilà, c'est une forme de rock aussi. Est-ce que cette polyvalence, c'était un avantage ou aussi un handicap au début? Parce que tu l'as dit, tu joues en numéro 10 et puis d'un coup, tu passes numéro 9. C'est comme moi, hein, j'étais à l'arrière pendant 10 piges au Stade Français. Bernard Laporte, tu m'as dit tu vas jouer à l'arrière, et tu m'as dit tu vas jouer à l'aile. Mais j'ai l'impression d'avoir été brancardier du jour au lendemain, d'être devenu tourneur-fraiseur. Donc c'est quand même, il faut quand même s'adapter. Donc ça peut être cette polyvalence aussi, il faut quand même se l'approprier. Et tu butes en plus, donc toujours plus.
Ouais, c'est vrai que c'était pas facile de jongler, mais à la fois, quand tu joues au Stade Toulousain, et à cette époque-là, c'était quand même plus facile que les années après où on n'arrivait pas trop à gagner des titres, et j'ai eu encore la chance de vivre dans des groupes exceptionnels. Donc, c'était quand même plus facile de s'adapter là, quoi. Quand tu domines quand même la plupart des clubs de top 14, c'est plus facile de jouer derrière et surtout à la charnière, quoi.
Mais tu penses que ça t'a pas joué des tours, justement, cette polyvalence? Parce que regarde, aujourd'hui, on a quand même l'impression, et on le voit avec la nouvelle équipe de France, on a le sentiment que Galtier, voilà, il a installé une charnière, il ne veut pas que ça change. Et on a le sentiment qu'effectivement, il y a plusieurs joueurs comme ça auxquels on pense, qui ont eu cette polyvalence, et ça faisait deux des remplaçants idéaux, entre guillemets.
Mais j'ai toujours vu sur un côté positif, parce que ça me permettait, que ce soit Toulouse ou en équipe de France, d'être sur la feuille de match. Après, c'est sûr que ça m'a peut-être... jouer un peu des tours pour avoir une place de titulaire indiscutable, que ce soit à Toulouse ou en équipe de France. Mais le problème qu'il y a eu en équipe de France, et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui les fait gagner, c'est la stabilité. On a eu des sélectionneurs qui ont alterné, mais en plus à tous les postes, hein, que ce soit en 9 ou en 10, devant, derrière, qui ont beaucoup changé. Alors peut-être que... Ouais, on n'avait peut-être pas le réservoir qu'il y a aujourd'hui, même si je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a quand même une profondeur depuis des années en France. Mais de faire confiance à certains joueurs, à une ossature sur 10, 15 joueurs, et qu'ils soient sélectionnés coûte que, voilà, et leur faire confiance et travailler dans la durée. Et que pendant une période, en équipe de France, ça changeait trop souvent. Et c'est ce qui n'a pas permis, pour moi, de remporter des matchs.
Selon toi, je rebondis, Raph, juste une question. Du coup, Jean-Marc, 17 sélections. Est-ce que tu sais, sur ces 17 charnières, avec combien de joueurs différents tu as joué, par exemple?
Mais ça dépend, parce que moi, des fois, je joue en 9 et en 10. En équipe de
voilà, France. En plus
Mais il y en a un paquet. Je pense que j'ai dû faire 10 ou 12 charnières différentes.
C'est incroyable, c'est incroyable.
Oui, mais c'était la période, on en a beaucoup parlé hein, dans Poulain Raffut, justement, pendant près de 10 ans. C'était la période de l'homme en forme. C'était les calendriers aussi à rallonge. Et puis... Enfin, on le sait bien, hein, pour passer d'un groupe à une équipe, tu as besoin de jouer ensemble, tu as besoin de gagner ensemble et tu as besoin de pouvoir t'installer à un poste. Et je ne cesserai de citer Fofana qui disait « Avec 50 sélections, je ne suis toujours pas installé en équipe de France, je dois encore faire mes preuves, ça fait 10 ans que je suis en équipe de France ». Et c'est vrai, quoi. Il y a un moment où cette période a été délicate. Et puis c'est aussi voilà, les sélectionneurs qui en ont vraiment pâti. Je voudrais revenir deux secondes sur Guy Novès, parce que moi ça m'intrigue véritablement. J'aimerais savoir comment ce mec... Coach, c'est le meilleur entraîneur en France qu'on ait eu ces 30 dernières années, il faut le dire. Et pourtant, j'ai joué au stade, il y avait la guerre avec le Stade Toulousain, bien sûr. Mais il faut dire aujourd'hui que Guy Novès a le plus beau palmarès du rugby français et européen. J'aimerais savoir comment ce mec fonctionne avec un mec comme Jean-Marc Doussin, voilà, ou avec d'autres. Est-ce que c'est un fin psychologue? Est-ce qu'il s'est appuyé justement sur les bons leviers? Ça m'intéresse.
Il pique hein, parfois.
Ouais, il pique. Alors, il piquait du coup. Mais c'est vrai que Guy, ce qu'il avait, c'est que peu importe le nom, peu importe si tu étais jeune, tu avais 10 ans d'expérience, 15 ans, si tu avais fait des erreurs, si tu n'avais pas été bon, il te tapait dessus. Il logeait tout le monde à la même enseigne, même si après, quand il fallait faire les compositions, il avait quand même ses choix assez arrêtés aussi. Mais par contre, si tu passais à côté, tu pouvais t'appeler du sautoir, Albacete ou quoi, que tu avais fait 3 fautes dans le match, et bien, il te fracassait devant tout le monde. Et je pense que c'est ça que les joueurs craignaient. Et pour, c'est pour ça aussi qu'ils l'aimaient, parce qu'ils savaient dire à un joueur « tu n'as pas été bon, mais quand même, je te donne la chance de rejouer et d'être bon ». Et Guy, c'était ça, quoi. Et voilà. Et après, je pense qu'il jouait, il prenait beaucoup de joueurs de caractère dans ses équipes. Des mecs qui n'étaient pas lisses, ça c'est sûr. Et je pense que ça a fait sa force pendant des années, parce que Guy… Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Il est quand même beaucoup aimé, surtout sur Toulouse, mais c'est un caractériel. C'est un mec qui a du caractère, qui je pense, a transmis un paquet de joueurs, comme tu le disais, cette hargne, cette envie de malgré tout, que le rugby, c'est un sport de combat. Et là où tu peux, entre guillemets, faire un peu plus mal aux joueurs, c'est en défense et à t'engager. Et je pense que ça, Guy l'avait dans son discours.
Tu parlais de caractère. Guy Novès l'a dit, pour avoir un peu échangé avec Pierre Mignoni. D'un joueur de caractère. Comment toi tu te définis aujourd'hui en tant que joueur et en tant qu'homme? Mais j'aime bien l'idée de l'homme derrière le joueur. Et je préfère mettre en avant l'homme qui, à mon avis, définit le joueur que tu es. Comment tu t'es formé justement avec tous ces mecs? J'imagine qu'il y a une forme d'admiration et puis après il faut prendre sa légitimité. Et aujourd'hui tu es quand même leader aussi aujourd'hui au Loup. Comment tu te définis toi en tant qu'homme?
Bon, je pense que ça vient aussi d'une éducation. Déjà, mes parents, j'ai une enfance très, très positive, entre guillemets. Mes parents sont toujours bien entendus et m'ont appris cette philosophie de travail, de jamais non plus se laisser marcher dessus, même si, d'être gentil avec tout le monde, parce qu'un jour, ça vous revient. Et voilà, et après, forcément, ton caractère se découvre et en fonction de tes rencontres aussi. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu ce caractère dans la vie de ne pas me laisser marcher dessus ou pas d'être un méchant, parce que je ne suis pas du tout un méchant. Mais par contre, quand je joue au rugby, que ce soit en jeune, quand j'étais à Saint-Girons ou quoi, ben forcément, il y avait des fois des bagarres ou des choses comme ça. Je n'étais pas le premier à me bagarrer, je ne voulais pas avoir ça. Mais par contre, voilà, s'il fallait être solidaire les uns des autres, ben on y allait, quoi. Et je pense que ça a été dans mes jeunes années aussi que je me suis découvert.
Bon, l'avantage, c'est que t'es plutôt solide, en plus, quand ça partait en schistole. Donc ça va.
Je fais pas non plus.
Ouais, mais t'es quand même costaud du haut. Et puis, t'es vif. Donc,
qu'est-ce que t'appelles schistole? Attention, parce que moi, schistole, c'est une bringue. Schistole, c'est quoi, là?
Non, sur les petits échauffourées, j'avais envie de dire.
Ouais, quand schistole, à mon avis, il doit pas s'échapper non plus, quand même.
Non, mais en tout cas, pour revenir sur ton physique, il paraît qu'à Toulouse, t'as été surnommé par rapport à Byron Kelleher. Bébé Byron, est-ce que c'est vrai et comment tu l'as vécu?
Ah, ça a été, je pensais surtout sur ma page Wikipédia ou j'en sais rien. Oui, à une époque, parce que je pense que les gens étaient tellement nostalgiques à Toulouse de Byron Kelleher qui a été, voilà, qui est passé 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus combien de temps à Toulouse. Et voilà, qui a mené énormément à l'équipe. Et je pense que les gens étaient surtout nostalgiques de ce demi-mêlée parce qu'ils passaient après des Michalak, des Elissalde qui n'avaient rien à voir avec ce physique-là. Et moi, je suis arrivé à cette période-là après Byron et que j'avais un physique un peu atypique aussi pour le poste de demi-mêlée et d'ouverture. Mais bon, ce n'était pas des choses auxquelles je m'attardais parce que comme j'en discutais souvent avec Yannick Nyanga, avec qui je suis très proche, il me dit, toi, tu fais du Jean-Marc Doussain et tu n'es ni Byron Keller, ni Jean-Baptiste Elissalde. Et il a raison. Les joueurs, c'est de les comparer, de les faire ressembler à tel ou tel joueur, mais tous les joueurs sont différents et il faut faire de son propre nom, quoi, je dirais.
Tu as passé 10 ans au Stade Toulousain. Comment on quitte un club comme ça? C'est le club, tu l'as dit, formateur. Je pense que c'est la même divorce, enfin pas le divorce, mais la même séparation qu'on peut vivre avec son club formateur. Tu l'as dit à Saint-Giron, on se lance dans le grand bain au Stade Toulousain. Il y a le Stade Toulousain où tu as été justement formé, mis dans le grand bain. Est-ce que voilà, il y a aussi cette heure de la maturité? En tout cas, moi, ce que je ressens en voyant jouer au Loup, mais il y a une belle évolution. Comment on quitte un club on peut dire, c'est un club famille, comme il en reste beaucoup en France.
Ouais, forcément, ça a été une période très compliquée. J'avais du mal à le vivre hein, parce que, comme tu le dis, ça a été un club, je ne sais pas si on peut dire des clubs famille, en tout cas un club de cœur pour moi, parce que quand tu joues dans la région toulousaine, ben, tous les gamins veulent jouer à Toulouse. Je pense qu'en plus, ça revient parce qu'ils ont été champions et je pense que si tu croises des gamins à l'âge de cadet ou quoi, tout le monde veut rejoindre le Stade toulousain. Et forcément, quand tu passes 10 ans, que tu vis... J'ai eu la chance en plus de gagner dans les équipes de jeunes à Toulouse, en cadet la première année où j'arrive. Et on s'est suivi avec certains, avec Gillian Galland, Sébastien Bézi, Jean-Pascal Barac, qui ont été pros derrière. Et c'est rare sur une génération de cadets d'avoir 4 ou 5 mecs qui se suivent et qui sont pros. Et forcément, j'avais des attaches et je connaissais tout le monde au club. Et ça a été difficile. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai été bien entouré et que je savais que c'était la fin d'un cycle. Il y avait les Ficou, Maestri, Fritz qui allaient arrêter ou partir. Et j'étais très proche d'eux. Juste avant, il y avait les Albacete du Sautoir qui étaient partis aussi de Toulouse ou qui avaient arrêté. Et voilà, c'était la fin d'une époque que j'avais eu la chance de rencontrer des super joueurs et des super mecs. Et voilà, Pierre m'avait contacté 2 ans auparavant, mais il venait juste de remonter en Pro D2. Et moi, ce n'était pas le moment. J'étais toujours en balance. Je jouais 9, 10, titulaire, pas titulaire à Toulouse. Mais je ne sentais pas que c'était le moment, je n'avais pas envie de partir. Et 2 ans après, il me rappelle. Et voilà, le Loup s'était stabilisé, venait de se qualifier en demi-finale. Et voilà, j'ai senti que c'était le moment de partir. Et même si forcément, pour un Ariégeois, Lyon, ça fait loin.
Voilà. Tu m'étonnes. Est-ce que tu en as voulu quand même aux dirigeants toulousains à l'époque? Est-ce que tu en as voulu aux entraîneurs? Est-ce qu'il y a eu un peu d'amertume? Parce que, comme tu le dis, quand on est originaire de la région, le Stade Toulousain, c'est un peu le Graal. Et que, alors je le redis, mais vu que tu es un peu un joueur très à l'ancienne et qui est attaché à certaines valeurs, j'imagine qu'être l'homme d'un seul club, c'est quand même, ça devait être plaisant.
Oui, forcément, ça aurait été plaisant. Et c'est vrai que pour moi, si je faisais toute ma carrière à Toulouse, c'était incroyable. Mais à la fois, j'avais envie d'évoluer, de voir autre chose. Je pensais même partir voir jouer à l'étranger, en Angleterre, pour voir comment les joueurs se préparent, parce que ça m'a toujours intéressé. Et je pense qu'il y a plein de choses à apprendre dans le rugby ailleurs qu'en France ou dans les autres sports. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, j'en suis très heureux et vraiment, je pense que j'ai fait le meilleur choix. Et j'en veux à aucune personne à Toulouse parce que j'avais discuté avec Hugo plusieurs fois, qui voulait quand même me garder, même si moi je ne m'entendais pas surtout sur le plan sportif, avec ce qu'il voulait faire entre guillemets de moi. Et on en a discuté. Et je pense que au final, c'était bien pour tout le monde. Je pense que ça fait du bien à Toulouse qu'une certaine, la dernière vague un peu entre guillemets parte par Max Médard ou des Johan Huger qui sont restés. Et qu'il fallait qu'il reste aussi parce qu'il fallait des anciens qui restent au club. Et moi, en tout cas, j'ai eu forcément une période de doute parce que tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds, même s'il y avait des joueurs que je connaissais, mais comment je vais m'adapter à la ville? Est-ce que je vais me sentir bien dans ce club? Et au final, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment bien intégré et j'en suis vraiment très heureux. Je ne regrette en aucun cas.
Qu'est-ce qui t'a poussé justement à partir au Loup? C'était un nouveau challenge, ce discours de Pierre Mignoni, c'est la ville, c'est un autre environnement. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, à mon avis, qui font qu'un envie de changement aussi. Même si ça fait toujours flipper hein, de partir. Moi, je te dis, Beauvais-Paris, Picardie-Paris, t'as 100 bornes. J'ai l'impression de partir au bout du monde. J'avais vu la Tour Eiffel. Pour moi, la capitale, c'était Beauvais. La capitale du monde. Donc,
Il faut dire que c'est quand même diamétralement différent, Paris-Beauvais. Même s'il n'y a que 100 bornes, là, pour le coup, c'est deux mondes différents.
Ah ouais, 700 pélos, c'est du jour au lendemain 3 millions de carnassiers dans ta gueule. Allez. Bref, bah, c'est un petit peu... Non, on ne va pas comparer Toulouse et le Loup. Mais quel a été ton envie de changement? Est-ce que c'est un challenge? Et ouais, je pense aussi peut-être le discours de Pierre Mignoni aussi.
Ouais, totalement. Hein. Pierre m'avait déjà appelé, comme je l'ai dit. Je savais que c'était un homme de caractère aussi. J'avais des échos. Forcément, tu te renseignes. Et je suis quand même la presse ou des choses qui se disent entre joueurs. Et j'avais appelé Alexis Palisson à l'époque, qui l'avait eu, lui, à Toulon. Et après, donc, il était passé par Toulouse et avait re-signé à Lyon. Et j'avais demandé comment ça se passait. Donc, voilà, et j'avais bien échangé avec Pierre, le feeling était passé. J'étais allé les voir à Lyon, avec mon agent. Et voilà, j'ai senti que ça matchait et dans son discours aussi. Donc, forcément, après, tu signes pour le projet sportif. Ça a toujours été ma priorité. Et je voyais le club grandir. Il m'a expliqué comment il voyait la structure à court, à moyen, à long terme. Et voilà, donc j'ai signé et j'en suis très heureux.
Avec le fameux Yann Roubert, très bon mec, jeune président aussi, qui a une grosse, grosse ambition. On le sait avec Gélenven derrière aussi et le monsieur Gillon. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a de belles perspectives, en tout cas pour le Loup. Et puis, c'est une ville qui peut... je trouve que c'est une belle ville, donc voilà. Personnellement, je trouve que tu as fait très bon choix.
Est-ce que justement, Jean-Marc, parce que le fait de se sentir désiré, parce que je crois que Pierre, il t'a limite harcelé hein, pour que tu le rejoignes à Lyon. Est-ce que justement, ce fait d'être désiré, ça t'a aussi convaincu? Et est-ce que depuis que tu es à Lyon, tu as le sentiment qu'il y a un peu de guinovesse en Pierre Mignoni?
Et alors déjà, Pierre, il a surtout harcelé mon agent, parce que c'est vrai qu'il m'a appelé une fois, mais après, il m'a laissé tranquille, et c'est ça que j'ai trouvé aussi top.
Classe.
Ouais, et il m'a pas... Parce qu'il savait très bien que c'était dur pour moi de quitter Toulouse. Il me l'avait dit. Je sais que ça va être très dur pour toi, parce que tu vas venir, il me disait au Loup. Mais voilà, il m'a pas rongé à moi, il a eu mon agent, et avec qui je travaille depuis 10 ans, et ça a été plus facile pour moi de gérer. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu de... Je dirais dans le caractère, comme on en parlait déjà tout à l'heure, Pierre ressemble à Guy sur ça, parce que sur chaque, comme tu le disais tout à l'heure, mais ouais, sur chaque plaquage, sur chaque ballon, il faut se battre parce que ça vaut de l'or. Et parce que je pense aussi, j'ai eu la chance de vivre des moments à Toulouse, j'ai gagné des titres. Je sais, ce qui, entre guillemets, sans prétention, mais ce qu'il faut faire... au quotidien, tous les jours, et pour y arriver, parce que j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui avaient déjà gagné plein de titres, et ça, c'était, voilà, j'ai eu la chance de le vivre, et il faut qu'aujourd'hui, je le transmette et je l'amène au club qui a cette ambition-là.
Le club, aujourd'hui, justement, le Loup est septième à 5 points de Toulon. Toulon, vous allez recevoir dans 15 jours, si je m'abuse, là, vous êtes là, tu es en vacances pour le moment, c'est le match de la dernière chance. Pas certain, mais bon, en tout cas, il faut le gagner. En plus, c'est le challenge aussi, on le sait, pour Pierre Mignoni, à qui on pense.
Comme on disait tout à l'heure en off, bon, déjà, c'est un match particulier pour Pierre de jouer contre Toulon. Donc, c'est toujours des matchs à pression la semaine. Pierre est assez tendu sur ces semaines-là, encore plus là, parce que ouais, comme on le disait tout à l'heure, on gagne, on n'est pas qualifié, mais on perd, ça se complique vraiment, même s'il y a toujours de l'espoir derrière. On a déjà perdu 2 ou 3 matchs à la maison. Donc, là, il ne faut plus en perdre. Et voilà, Toulon est à 5 points devant nous. Et forcément, il faut raccrocher ce wagon-là. Et ce match va compter. Ouais.
Vous vivez une saison un peu bizarre, hein, Jean-Marc. Dernièrement, Pierre Mignoni a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule. Il a presque mis, enfin, en tout cas, on a cru lire entre les lignes qu'il avait mis son départ hein, même dans la balance. Et toi, tu as déclaré, d'ailleurs, j'ai retrouvé quelques interviews, où tu disais que ça a mis un coup d'électricité à tout le club, finalement. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cet épisode. Et puis, pour l'anecdote, parce que Pierre Mignoni est quand même quelqu'un de très volubile sur le bord du terrain, je voulais savoir si de temps en temps, les joueurs vous cotisiez pour lui offrir du miel, parce que des fois, il me fait mal au cœur tellement j'entends sa voix érailler à force d'hurler sur le bord du terrain.
Il récupère assez vite de la voix, quand même. Hein. Il doit avoir un secret... Un remède, je ne sais pas. Non, je pense que Pierre est un ambitieux. un altruiste. Il a poussé ce coup de gueule pour pas pour lui, comme il a dit, parce que je pense que Pierre, il est sollicité de plein de côtés. Et s'il avait voulu partir pour penser à lui, il serait parti et il aurait signé ailleurs. Mais surtout pour faire avancer le club, comme je disais, plutôt à court et moyen terme sur le coup-là, voire à long terme aussi, mais il avait besoin un peu de sentir que le club se réveille et que sinon, si on continuait comme ça, déjà, on n'allait pas se qualifier. Et de deux, le club n'allait pas attirer des jeunes joueurs, des grands joueurs, parce qu'il en faut dans les clubs pour gagner des titres. Et je pense que c'était le but de son coup de pied dans la fourmilière, je dirais. Et je pense que ça, en tout cas, nous, ça a fait effet au niveau des joueurs, parce que Pierre, il est apprécié dans le groupe. C'est quelqu'un de droit. Et voilà, donc on a pas mal parlé déjà entre nous, parce que la période était un peu compliquée entre nous sur le terrain déjà. Mais surtout, il y a une prise de conscience de tout l'ensemble du club, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec cette crise sanitaire. On ne voit plus personne. Malheureusement, on ne voit plus les gens des bureaux. Ils sont la plupart en chômage partiel. Et il n'y a plus de vie de club. Donc ça, c'est quand même très difficile. Et surtout, bon, nous, on a la chance, entre guillemets, les joueurs, de se voir et de travailler, d'aller... se travailler, c'est un grand mot, hein, parce que moi, je ne considère pas qu'on travaille, mais en tout cas, d'aller au club et de pouvoir faire notre métier. Et les gens dans les bureaux, ils ne nous voient plus. On ne peut plus passer boire le café avec eux et discuter, savoir si ça se passe bien dans les bureaux. Et je pense que ça, c'est vraiment compliqué, socialement parlant et dans la vie de tous les jours. Donc Pierre a mis un petit coup de fouet. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on se qualifiera, en tout cas sur le plan sportif, mais je pense qu'il avait aussi besoin d'avoir des garanties pour le futur du club et dans ce qu'il veut construire et continuer de construire au Loup.
On va parler de deux minutes de toi. On l'a dit, tu es quand même quelqu'un d'assez discret dans les médias.
On parle de moi déjà, là, depuis tout à l'heure. On parle de moi déjà.
Non, mais on va parler de ta personnalité un peu.
Ouais, justement, et pas de cette partie-là que moi, personnellement, je connais très bien et tu vas comprendre pourquoi. Tu as posé nu dans les calendriers des dieux du stade, donc j'aimerais que tu nous racontes ce qui s'est passé. Un petit coup de fil de Max.
Il y a ta maman derrière, mais j'aimerais qu'elle nous explique comment elle l'a vécu, du coup.
Non, elle n'est pas forte pour les interviews.
Donc non, alors moi, pour l'anecdote, j'ai fait 5 fois les calendriers. De l'extérieur, on a l'impression que c'est super beau. D'ailleurs, j'étais allongé sur une serviette, le cul, le corps complètement peint en marron. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que en fait, j'étais dans un garage avec des crottes de pigeons partout. Mais la photo est plutôt... D'ailleurs, une autre avec Yaya Largué aussi, où pareil, lui de face, moi de dos. Alors de dos, parce qu'on était on avait le même gabarit, sauf... bref, et toutes les merdes de pigeons, les cordes autour. Les gens ne se rendent pas compte que c'est quand même aussi une belle aventure humaine, notamment avec Max, qui te scrute de loin justement pour savoir si tous les détails sont bien placés. Comment s'est passée cette petite aventure avec les calendriers?
C'était une belle aventure. Je pensais pas un jour faire ça, mais j'ai surtout fait, encore une fois, par amitié et par pour les hommes, parce que en fait c'était Johan Maestri à l'époque avec son frère qui ont monté une boîte de publicité et de communication et d'agence de modèles, etc. Et il m'a dit, écoute, on va reprendre le calendrier des dieux du stade. Le club ne veut pas spécialement se positionner du Stade français. Forcément, vu qu'il était au Stade français, ça se passait, il avait de bonnes relations. Il m'a dit, moi, j'ai envie d'y mettre des potes à moi, des mecs en qui j'ai confiance et avec qui j'ai envie de, entre guillemets, de travailler, parce que ce n'était pas du tout du travail. On a plutôt rigolé. Et du coup, je lui ai dit, moi, si c'est, entre guillemets, toi qui le gères et... Feu à 200%, parce que c'est un très bon ami à moi. J'en ai parlé à mes parents, je les ai évidemment avertis, mais j'avais dit à Johan, moi par contre, c'est pas à poil, quoi. Donc, c'est les enfants, j'ai pas envie qu'ils tombent sur ça. Donc ça s'est fait par amitié, encore une fois, et ça s'est super bien passé. Comme tu dis, c'était une super expérience, parce que je pensais pas aimer me faire prendre en photo, même si c'était en boxeur ou quoi, et c'était assez drôle avec les joueurs du Loup, et on a bien rigolé.
Mais est-ce que tu as eu besoin de forcer ta nature, Jean-Marc? Parce que tu n'es pas le plus extraverti, on ne t'entend pas klaxonner toutes les 5 minutes dans les médias. Tu n'es pas quelqu'un de plutôt... Bon, oui, non, mais après, on ne va pas rentrer dans le détail des nuits de fiesta, mais voilà, tu n'es pas quelqu'un de très volubile dès lors qu'on t'a en interview. Tu ne cours pas derrière les micros, contrairement à certains de tes congénères, j'ai envie de dire.
Non, c'est sûr. Je pense que ouais, ça, c'est forcément mon caractère et aussi l'école de Guinovès. Je pense que c'est lui qui nous a appris à faire des cours de média training et nous briefer avant chaque interview. Donc, ça, c'est un peu l'école de Guy de pas trop en dire et de rester un peu à sa place.
Juste pour savoir un peu comment se passe ton avenir. Je l'ai dit, tu re-signes. Ça fait, là, tu viens de re-signer pour 3 ans au Loup. Donc, tu arriveras à tes 33 ans. Est-ce que tu as anticipé l'avenir? Comment tu te projettes? Alors, c'est très compliqué, on le sait. On en parle aussi beaucoup ici sur la reconversion, de se projeter. Alors tu dis que ce n'est pas un travail, mais aujourd'hui, c'est devenu voilà, c'est une source de revenus. Si vous êtes 7 jours sur 7 à penser que rugby, donc c'est un travail à part entière, même si ce mot-là peut déranger aussi, je le sens dans ta bouche. Mais derrière, comment on anticipe, alors qu'on est encore joueur professionnel, qu'on a re-signé 3 ans, donc de suivre les objectifs du club? Tu l'as dit, à Toulouse aussi et ailleurs, il y a des années, les mecs avaient des doubles projets et des business aussi à côté. Aujourd'hui, on voit aussi la pression aussi qu'on peut mettre sur les joueurs aussi, parce que le club aussi a besoin de résultats individuels et collectifs. Mais comment on arrive à anticiper justement l'avenir et où tu te projettes et dans quel milieu, toi?
Non, c'est vrai que comme tu le dis et tu l'as vécu, je pense que ce n'est pas facile de se recycler, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai 30 ans et forcément, j'y pense. J'ai connu des joueurs, des amis qui se sont
retrouvés. Je suis sûr que tu dis ça parce qu'il y a ta mère derrière et qu'elle t'entend parler. Tu veux juste la rassurer.
En tout cas, oui, je pense que c'est aussi mes parents qui m'ont appris à pas mettre tous les œufs dans le même panier et forcément de penser à l'après parce que malgré tout, ça passe très vite. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans et forcément, je suis en maturité de pouvoir mener, je pense, deux projets. Mon métier, entre guillemets, je disais métier, ce n'est pas un métier, mais c'est un métier quand tu dois négocier ton contrat, quand tu dois parler, entre guillemets, aux journalistes ou aux partenaires parce que c'est dans tes obligations. Et forcément, là, c'est ton métier. Mais après, je disais ça parce que tous les jours, ce n'est pas un métier. Tu entraînes à 9h ou 8h30, les gens qui commencent à 7h ou quoi, toi, tu finis à 14h, 15h, et les gens qui finissent à 20h, 21h. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas un vrai métier, mais c'est sûr que je pense à mon après-carrière. Je suis en train de réfléchir à des projets, mais aussi des sollicitations extérieures. Donc, ça, c'est pas mal. Et comme tu l'as dit, je commence à travailler avec Caro Thiébaud sur des projets. Donc, voilà, de l'image un peu. Mais le fait de rencontrer, on a la chance d'être dans un milieu où on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de partenaires. Alors, des fois, ça a les bons et les mauvais côtés. Mais en tout cas, on a cette opportunité-là. Et je pense que, en tout cas, les joueurs de rugby ont besoin de travailler, de faire quelque chose après leur carrière. Et c'est quand même le plus important parce qu'il reste 50 ou 60 années à vivre derrière. Donc ça, c'est quand même cool.
Putain, tu te vois aller jusqu'à 100 piges, toi. C'est beau, hein? Ah, mais on n'est pas de la même génération. Après, il y a la science.
Quand t'es 50, ça fait 80, non? C'est 80, c'est déjà bien.
T'avais dit 60.
Matt Spé, c'est pas arrivé à Beauvais.
Non, moi je suis côté hémisphère gauche, moi je suis plutôt à côté artistique, moi.
Hein? Jean-Marc, juste pour conclure, on a un international avec nous, il y a un France-Angleterre qui s'avance samedi, enfin un Angleterre-France d'ailleurs. Un petit mot sur cette équipe de France, sans parler du fameux Bubblegate, plutôt sur l'aspect sportif. Comment cette équipe de France, tu la perçois? Comment tu la vois? Tout à l'heure, tu as dit c'est fini. Alors, je t'ai trouvé peut-être un petit peu cavalier, tu as 30 ans, sait-on jamais. Alors, effectivement. C'est pas le profil aujourd'hui recherché par le sélectionneur. Mais cette équipe de France, comment tu la vois et comment tu la vois notamment à Twickenham samedi?
Après, s'il m'appelle demain, je vais en Angleterre. Je m'attends à Londres. Non, ça fait surtout plaisir de voir une équipe qui gagne. Pour en côtoyer certains, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Forcément, quand ça gagne, c'est toujours plus facile. Mais cet équilibre est toujours fragile, encore plus en équipe de France parce que tu es.
On vient de le voir.
On vient de le voir pour une affaire. Ouais. Tout le monde en parle.
On espère sans conséquence.
Passé par le passé, en équipe de France qui était bien plus grave, on en a fait beaucoup moins. Aujourd'hui, je pense que c'est réglé, tant mieux pour eux, parce qu'ils ont besoin surtout de se concentrer sur le sportif. Mais surtout, je pense qu'il y a une vague de talent qui est partie pour durer, je l'espère, et surtout en qui il faut faire confiance. Et peut-être qu'ils vont prendre une danse en Angleterre, je ne leur souhaite pas, mais... Parce qu'on dit les Anglais, ils sont moins bien, ils jouent pas bien, mais ils seront là quand même samedi, ça c'est sûr, contre les Français. Mais en tout cas, elle fait plaisir à voir. Il y a des joueurs de qualité, les joueurs jouent les uns pour les autres, et ça c'est ultra important. Et voilà, malgré tout, elle est quand même jeune, il faut lui laisser encore du temps parce que tout le monde s'emballe, et on a toujours ce côté-là en France, mais Mais c'est bien parce qu'il y a du potentiel. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense que le rugby français a compris qu'on avait un gros potentiel, mais surtout qu'il fallait s'entourer de bons entraîneurs, d'un gros staff. Parce que quand on voit les équipes, et nous, on le voit dans les clubs, quand on voit les équipes européennes arriver avec leur staff, on a joué les Saracens 2 années consécutives, là, et les mecs, ils arrivent à 20, 25. Et ils n'ont qu'une équipe. Mais vous rigolez, mais...
Non, non, moi, mais c'est incroyable. C'est
un hasard. Ils sont triple champions d'Europe. Alors bon, ils ont sans doute eu des facilités pour l'être parce qu'ils avaient des joueurs incroyables. Mais en tout cas, ils mettent tous les moyens de leur côté et pas que sur le plan sportif parce que,
c'est vrai.
Parce que la différence entre les grands clubs et les bons clubs, c'est là. C'est que tout le monde a des bons joueurs, mais en tout cas, au niveau du staff, il y a tout qui est fait minutieusement et le détail.
Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en anglais, une phrase en anglais?
Non, trop tard.
Non, là, coupé.
C'était pas prévu, ça.
Mais non, mais en fait, je trouve qu'en fait, dans ta philosophie et comment tu parles du rugby aussi, et comme tu viens de parler des Anglais, ça peut être aussi une aventure qui peut te correspondre sur une dernière année d'aller jouer en Angleterre. Oui, non, peut-être.
Ouais, totalement. C'est vrai que c'est difficile de tout quitter. Mais en tout cas, j'y réfléchis à un moment donné quand je suis parti de Toulouse, de cette opportunité-là. Mais malgré tout, il y avait beaucoup de choses qui me retenaient en France. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, comme tu l'as dit, j'ai re-signé 3 ans. Peut-être une dernière année en Angleterre ou je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis en Afrique du Sud où c'est un peu plus facile, entre guillemets, de s'exporter. Mais aller vivre une expérience vraiment pour le côté humain, l'expérience, s'enrichir et pas pour le côté financier. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans une carrière en France, il faut le dire, on est... malgré tout bien payé, on a des engagements avec des achats ou des choses comme ça, et c'est difficile de tout quitter, de ne pas savoir comment on va être géré là-bas. Donc, peut-être en fin de carrière, quand j'aurai fait le tour un peu en France, ce serait peut-être une opportunité que je saisirais. Oui.
Tu trouveras peut-être plus facilement des CEP en Angleterre qu'en Afrique du Sud, quand même.
Ouais, mais je n'irai pas pour ça, les CEP, je suis en arrière. Je ne sais pas
trop le dire. La base anglaise, Jean-Marc, c'est Where is Brian? Je me suis retrouvé à choper l'appendicite en équipe de France aux portes de l'équipe de France, choper l'appendicite, les mecs de la Fédé le lendemain matin qui me font bon courage. J'étais en service gériatrie avec 7 petits vieux qui étaient autour de moi. Pas un mot d'anglais, à part Where is Brian? Je me suis retrouvé devant l'aéroport, bref, galère. Donc si.
Qui s'appelait Brian?
Hein?
Qui s'appelait Brian?
Pas du tout. Et voilà, bon, bref, en tout cas, si tu as juste un seul conseil, apprends l'anglais. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la je peux dire la suite de ta carrière, mais voilà, est-ce que c'est le retour du public, est-ce que c'est un titre en fin de saison, est-ce que c'est tout ça en même temps, un retour dans l'équipe de France au talon, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut.
Non, par contre, j'ai vraiment pas apprécié la comparaison avec Thibaut Regard Caro, je vais vraiment lui en vouloir.
Je gère ça avec elle.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi?
Je sais pas, un peu la paire de cheveux, mais chaque fois, tout le monde me. Enfin, ils ont arrêté de me brancher parce que j'avais montré des photos de 2011 ou 2012 et j'avais quand même la même implantation, donc ça n'a pas bougé.
Bon, Jean-Marc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de Poulain à fut. C'était bien cool. Et si ta maman nous entend, madame, félicitations d'avoir fait un homme bien fait. Voilà, c'est chouette. On vous embrasse, madame bien. Doucin.
Un grand merci, Jean-Marc. Et, je crois qu'effectivement. Ça, c'est, comme l'a dit Raph, c'est très rafraîchissant d'avoir des joueurs qui, en termes de valeurs, ces fameuses valeurs sur lesquelles parfois on surfe un peu trop, à mon goût, en survent, mais voilà, d'avoir des joueurs qui, pour le coup, collent vraiment à ces valeurs-là. Et je crois qu'effectivement, que ce soit Marc Lièvremont, Guy Noves ou Pierre Mignoni, ces gens-là ne se sont pas trompés.
C'est gentil. Merci à vous.
Et je vais juste te dire une dernière chose parce que les gens ne le savent pas en fait, mais c'est quelque chose de très très personnel. Je suis très heureux qu'aujourd'hui ce soit un podcast en intégralité parce que les gens ne voient pas qu'Adrien n'a pas mis de filtre sur la caméra et que j'étais aspect rougeau, sorti de bringue à 6h du matin. Et je tiens juste à remercier Adrien qui est derrière la caméra et qui est à la régie. Merci de ne pas avoir mis de filtre. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end rugby, un très bon match face à l'Angleterre, à toute cette équipe de France. On pense bien sûr aussi aux féminines. Hier, c'était quand même la journée de la femme, mais comme je le disais à ma femme, c'est tous les jours ta journée. Ça, c'est cadeau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Éteignez vos télés, vos GSM, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Jean-Marc, merci beaucoup. Bonne fin de saison à toi, à très bientôt.
Gentil.
Salut. Salut.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.